dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance,
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Et c'est là où j'ai commencé vraiment à me dire, bah tant pis quoi, j'ai des idéaux et bah, je préfère aller au fond de mes idéaux, quitte à couler ou à devoir arrêter la ferme, mais au moins que quand je me lève le matin, je sache pourquoi je le fais quoi.
Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a de l'avenir et je pense que les gens maintenant commencent à prendre conscience que c'est important de manger local, de regarder ce qu'on mange, de faire attention. Donc du coup, je me dis que ça peut que faire repartir l'agriculture et les petits agriculteurs, entre guillemets, quoi.
Il faudrait que les fermes restent assez petites et familiales. Ils nous parlent beaucoup de la conservation des sols et de faire attention aux produits chimiques qu'on utilise. Travailler plus en rapport avec la nature.
Donc le souci est là, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus embaucher. Donc on se noie dans le travail et on se noie dans l'investissement. Et la spirale fait qu'on arrive à un point de non-retour.
Dissonance tend ses micros à des paysans du sud de la France. Renaud David a sa ferme sur le Cosmejan, en Lozère, et vise un idéal qu'il est en train d'atteindre. Émilie Bell, après plusieurs années dans l'animation auprès des personnes âgées, se prépare à rejoindre son frère pour travailler sur l'exploitation familiale dans le sud Aveyron. Maxime Espinas, jeune adolescent encore dans un lycée agricole, va reprendre les rênes de la ferme familiale située sur le Coscontal et devenir ainsi la quatrième génération à poursuivre le travail des ancêtres. Benoît, son papa, nous dit ce qu'il en pense. Pour les uns, c'est la liberté qui prime. Pour d'autres, c'est la poursuite de l'œuvre familiale. Et pour certains, c'est la recherche d'un équilibre entre ce qu'attend le consommateur et les dures réalités et contraintes de ce métier. Leurs mots, leur silence, leurs doutes témoignent de leur amour, de ce qui est plus qu'un métier, un choix de vie. Paroles de paysans avec Émilie Bell, Renaud David, Maxime et Benoît Espinas sur Dissonance.
De la terre dans les mains, les racines de la vie, les racines pour la vie. Regardez l'horizon, les pieds dans les foins. Pour que poussent les fleurs, vienne la pluie. Si on avait tous de la terre dans les cœurs, les racines de la vie, les racines de l'humanité. Sentir les regains dans les vents d'été. Et que poussent les fleurs aux mille couleurs. Monsieur le Président, il y a des hommes qui pleurent sur le bord des rivières. Il y a des hommes qui meurent sous le poids de leur terre. Dans la terre de leur père. Mais dans la terre de leur môme. Balayer la terre dans le dos des hommes. Il y a qu'en haut qu'on gagne la récolte des graines. Il y a qu'en haut qu'on chante du pognon dans les veines. Mais c'est dans la terre que meurent les hommes. Dans le vent des campagnes, on entend les cris. Dans le vent des campagnes, on peut sentir la vie. Paysans de la terre, paysans qu'on oublie. paysan pour la vie, un suicide chaque nuit. Monsieur le Président, il y a des hommes qui pleurent sur le bord des rivières. Il y a des hommes qui meurent sous le poids de leur terre. Dans la terre de leur père. Mais dans la terre de leur monde.
Parole de paysan avec Émilie Bell, Renaud David, Maxime et Benoît Espinas sur Dissonance. Renaud David, nous l'avons déjà entendu il y a un an évoquer la prédation du loup. Aujourd'hui, il nous invite sur ses terres du Cosméjan auprès de ses brebis.
J'ai été élevé à la campagne jusqu'à mes 10 ans. Après, j'ai vécu à Saint-Étienne, dans la Loire, donc grosse ville. Et à partir de l'adolescence, j'ai hésité tout le temps entre faire du social, du médical, comme ma mère, ou faire de l'écologie, quoi. Du coup, j'ai fait un peu les deux. Voilà, j'ai fait des formations médicales, j'ai bossé à l'hôpital, en service de soins palliatifs, en psychiatrie aussi, pas mal. Et j'ai trouvé ça passionnant, mais c'était un peu lourd, psychologiquement parlant, à porter. Et surtout que j'avais toujours l'autre passion qui était la nature, l'environnement. Voilà. Et du coup, j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature, un BTS GPN, axé sur la gestion de l'environnement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a eu un module d'initiation au pastoralisme. Et en fait, j'ai bossé pendant 3 ans et demi dans l'environnement, sur le génie végétal et le génie écologique au sein de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Et également, lors de ce stage-là, on mettait en pratique la gestion des bords de rivière par du pastoralisme, par des bergers. Et en fait, moi, je me suis vite heurté dans le milieu écologue à faire trop de théories, trop de dossiers, et pas assez être proche du terrain, pas assez d'avoir des choses concrètes. Et en fait, j'ai trouvé que le métier de berger, c'était gérer au mieux un espace très restreint, avec l'ouverture sur les gens, sur les autres utilisateurs du territoire. Et ça m'a vraiment plu. Et donc du coup, à partir de 24 ans, je suis parti à fond dans le métier de berger. Du coup, j'ai fait de 2004 à fin 2010, enfin à mi-2010, jusqu'à ce que je m'installe ici, quoi, en fait.
Et c'est quoi qui t'a fait basculer pour passer de berger à éleveur? C'est le chemin classique ou...
Après, je ne sais pas si on peut parler de... Il n'y a pas de classicisme, il n'y a pas de normes, de normes dans le métier de berger. Chacun est différent. Mais disons que moi, j'ai été un berger à l'année. Donc, c'est garder les brebis toute l'année. Je gardais 11 mois et demi sur 12. Je m'arrêtais seulement une semaine avant la montagne et une semaine après la montagne pour aller voir ma famille et mes potes. Et du coup, on gère quand même un troupeau quasiment à l'année. J'ai fait ça pendant 4 ans et demi. Et au bout de 4 ans et demi, c'est là où on voit la contrainte d'être salarié, ou même si on s'entend très bien sur la ferme où on travaille ou sur les fermes, on reste quand même qu'un employé, quoi. Et du coup, j'ai commencé à monter un troupeau en tant que berger. J'ai monté un troupeau de 25 brebis et 25 chèvres sur quelques années, pour au moins avoir mes bêtes, pour m'impliquer un peu plus. Et puis après, avec d'autres potes bergers, on a commencé à réfléchir à franchir le cap, à s'installer, mais à s'installer dans un système pastoral extensif. L'éducation que j'ai eue par les anciens, c'est ça, quoi. C'est des brebis, c'est fait pour vivre dehors, c'est fait pour manger de l'herbe, à la rigueur un peu de grain quand elles ont l'agneau, et encore pas trop. Si on achète de l'aliment industriel, c'est qu'on est un mauvais éleveur. C'est cette notion-là qui m'a amené à vouloir franchir le cap. Et du coup, avec un autre pote berger, on avait décidé de s'installer à deux. Voilà, parce qu'on avait conscience que tout seul c'était très dur. Et du coup, on a prospecté tout le sud-est de la France et jusqu'à arriver en Lozère. Et en Lozère, on a découvert cette ferme-là qui correspond à pas mal de mes attentes. Mais j'avais conscience que c'était une ferme très 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 pauvre, du point de vue ressources de la terre, qui avait un climat très spécial. Et c'est ça aussi qui m'a plu, quoi. C'est d'être confronté vraiment de façon brute à la nature. Et d'essayer de m'installer sur un milieu comme ça, quoi. Et en fait, quand j'ai repris cette ferme ici, c'était une ferme qui était quasiment totalement boisée. Voilà. C'était une ferme en brebis laitière, avec quota pour faire du lait pour Roquefort, qui était en gros surpâturée, à 25% de la ferme était surpâturée, et 75% de la ferme qui était absolument pas mangée depuis plus de 30 ans. Du coup, quand j'ai repris ça, je savais que j'allais devoir rester en lait un an, deux ans, le temps de constituer un troupeau de brebis, mais c'était décidé dès le départ et déclaré au propriétaire comme quoi je comptais arrêter le lait, passer en viande, et utiliser les trois ans au début pour pouvoir faire couper beaucoup d'arbres sur la ferme, ça c'était un accord aussi au préalable, débroussailler aussi, réouvrir les milieux. J'ai souhaité partir en race à l'époque à faible effectif, mais même en voie de disparition. Donc c'était la Bizet et la Morée Rousse. J'ai aussi mis des chèvres du Rove, que j'avais déjà avant. Donc ça a été mon objectif à la base. Et du coup, j'ai appris aussi à faire des concessions. J'ai été confronté de façon très dure au monde du lait, à ce que ça impliquait, le rapport à l'animal que je retrouvais pas du tout. Les brebis, on ne pouvait pas les sortir, on ne pouvait pas les garder. C'est des bêtes qui avaient jamais connu la nuit, jamais connu la pluie, jamais connu le vent de leur vie, qui mangeaient des centaines de kilos d'aliments par an. C'était quelque chose qui me dépassait. Et du coup, à partir de début 2013, quand j'ai arrêté les brebis laitières, que j'avais mon troupeau de bisets, que j'avais construit mon nouveau bâtiment, que la ferme était déjà un peu plus ouverte, là j'ai commencé à revivre. Mais en fait, du point de vue financier, c'était très 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 dur. Et en fait, 2013 et tout 2014, j'étais seul sur la ferme. Voilà. Et c'est là où j'ai vraiment connu le doute, parce que je travaillais encore plus que quand j'étais berger, donc j'étais encore plus coupé que quand j'étais berger. Mmh. Et parce que là, cette fois, je pouvais pas m'arrêter deux fois 8 jours dans l'année, parce que j'avais des bêtes. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à me dire, tant pis, quoi, j'ai des idéaux, et je préfère aller au fond de mes idéaux, quitte à couler ou à devoir arrêter la ferme, mais au moins que quand je me lève le matin, je sache pourquoi je le fais, quoi. Et c'est à partir de 2015 que j'ai décidé de passer en bio, de vraiment axer les brebis le plus possible dehors, mais aussi j'ai dû concilier avec la découverte climatique et la ressource fourragère de ma ferme, qui est, si c'est pas la plus pauvre, c'est une des 2-3 plus pauvres de tout le Cosmégean. Entre le fait que je sois à 40 km du Mont Aigoual, des Cévennes, j'ai pas les pluies qui viennent des Cévennes, et comme je suis contre les gorges du Tarn, il y a une barrière climatique qui fait que ici c'est un milieu très très sec, et surtout c'est une zone dolomitique. Voilà, donc il n'y a pas de sol, il n'y a pas d'humus, c'est que du sable. Donc c'est quand même très 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 spécial. Et en fait, j'ai appris à faire des concessions. Donc il y a des fois où j'ai pas pu faire les annuages dehors comme je souhaitais. Il y a des fois où j'ai dû acheter de l'aliment. Il y a des fois où les brebis sont restées 3 et 4 mois en bergerie. Voilà. Mais la réflexion était derrière. Et du coup, j'ai d'entrée essayé de transhumer l'été. Donc d'abord dans les Cévennes. Et du coup, 2015-2016, j'ai arrêté de transhumer dans les Cévennes. On a mis en place des regroupements de troupeaux avec deux ou trois de mes voisins. Mais dès 2017, j'ai prospecté pour trouver des alpages, un vrai alpage dans les Alpes. Et l'objectif derrière, c'était de pouvoir faire naître mes agneaux ici, mais je veux élever les agneaux à l'herbe, avec le lait de la mer et à l'herbe. Moi, je ne veux pas mettre d'aliments industriels, ainsi de suite. Voilà. Donc en 2018, on est parti pour la première fois en Haute-Savoie, et maintenant, c'est parti pour plusieurs années. Donc du coup, pour l'instant, mon système, c'est je reste ici quasiment toute l'année, sauf 4 mois. Et ma réflexion, ce que je cherche activement là depuis plusieurs mois, c'est de pouvoir partir de ma ferme sur mi-janvier, février et mars, partir bien plus au sud, donc le sud de l'Hérault ou dans l'Aude, manger du parcours qui n'est pas mangé, donc avec tous les enjeux de réouverture du milieu, d'entretien des paysages, de lutte contre les incendies, voilà, parce que les communautés de communes sont très très demandeurs de ça, et surtout moi ça me ferait que mes brebis ne seraient plus en bergerie. Donc si elles sont plus en bergerie, elles se portent beaucoup mieux, que ce soit dans la tête, elles sont naturelles, enfin elles font le comportement naturel, donc elles sont très très bien. Et surtout, j'ai quasiment plus besoin de foin. Or, moi, c'est une ferme qui produit déjà à la base pas beaucoup. En étant passé en bio, ça produit encore moins. Donc, quand on dit encore moins, moi, en gros, ici, je suis à entre une tonne et une tonne et demie à l'hectare. Voilà, donc j'ai 60 hectares de terre labourable, que je laboure pas d'ailleurs, je suis passé en semi-direct, en non-labour. Mais voilà, enfin, entre les quelques terres qu'on doit faire une rotation pour les céréales et donc les nouvelles prairies, il me restait que 40 hectares à peu près par an. Et si je veux avoir le stock nécessaire en foin pour passer l'hiver, en gros, je peux quasiment pas mettre les brebis et les agneaux dans les prés. Or, moi, je veux mettre les brebis et les agneaux dans les prés, ce qui fait que depuis 3 ans, je me retrouve à acheter beaucoup de foin. Notamment l'année dernière, ça a été une catastrophe, on est sorti de 3 ans de sécheresse, donc les stocks de foin étaient vides sur la ferme, une énorme sécheresse lors des foins, ce qui fait que j'ai dû acheter 100 tonnes de foin, parce que en plus l'année dernière, au lieu de passer 2 mois en bergerie, j'ai passé 6 mois en bergerie, dû au temps, dû aux chenilles pressionnaires, dû à la sécheresse qu'il y a eu, et du coup ça a été une catastrophe quoi. Et moi c'est hors de question. Mais par contre, au printemps, on a sorti les 200 agneaux avec leur mère dans les prés, et donc du coup j'ai réussi à faire un peu de foin. Cette année, on a énormément sorti les brebis, elles sont restées en moyenne qu'un mois et demi en bergerie, voilà, sur le Cosméjean. Mais n'empêche que j'étais très très limite en foin, et j'en ai fait rentrer un tout petit peu, parce que j'essaie de faire des partenariats avec d'autres fermes, avec des amis. Et donc du coup, le but, bah, c'est d'arrêter de faire rentrer du foin, que mes brebis soient dans le sud, mange de l'herbe. Moi ici du coup ça veut dire moins de travail sur les terres, quasiment plus de tracteurs. Le foin, bah, du coup je fais juste 15-20 tonnes de foin, bah, pour les jours où il neige, pour les jours où j'ai envie d'être tranquille. C'est aussi ça l'intérêt d'être installé sur une ferme, c'est de pouvoir se dire que bah, si on veut on fait manger un pré, si on veut bah, on met du foin, et pour une journée c'est pas grave quoi. Voilà. Mais du coup c'est mon but quoi, c'est vraiment passer quasiment en plein air intégral, je dis quasiment parce que j'ai les bâtiments, donc quand les brebis sont pas très loin des bâtiments et qui fait moins 10 la nuit, bon, on les fait dormir à l'intérieur, mais sinon c'est ça quoi, c'est quasiment tout à l'herbe et quasiment hors bâtiment quoi. Mon pari, ma vision sur les 10 ans à venir, là en fin d'année, ça fera 9 ans que je suis installé. Et voilà, je m'étais donné 9 ans pour transformer la ferme, la réouvrir, la passer en viande, en hyperpastorale. Je pensais réussir à avoir les deux transhumances au bout de 9 ans. Et du coup, il y a des grandes chances que ce soit le cas, que je transhume. Voilà. Donc mon système, ma vision du truc, et j'ai réussi à la mettre en place. Après, je vis sous perfusion de la PAC et je me considère comme un fonctionnaire. Parce que moi, personnellement, j'ai un chiffre d'affaires à l'heure actuelle hein, qui est de 70% dû à la PAC. Mais parce que c'est un système qui n'est pas encore en place. Après, je ne veux pas rentrer dans une routine. J'estime qu'un système doit être, justement, c'est les vrais systèmes paysans, il doit être avec beaucoup de résilience, beaucoup d'adaptation, pour justement, s'il y a un dérèglement, s'il y a un accident, que ce soit sanitaire, que ce soit climatique, que ce soit de la prédation, ben, plus on est résilient, plus on a de chances de le surmonter sans que ce soit la panique. Voilà. Mais du coup, moi, là, mon prochain pari, c'est d'être à deux. Et c'est de faire tout en vente directe, voilà. Et donc du coup de rééquilibrer un peu, j'aimerais bien passer largement en dessous des 50% de mon chiffre d'affaires dû aux aides, ça serait au moins le minimum, mais dans tous les cas, on est quand même la profession qui est la plus aidée en France, donc j'estime quand même en tant que personnel que comme on est aidé énormément par les concitoyens français, on doit aussi prendre en considération les attentes de la société civile, quoi. Voilà. Mais la société civile doit être formée et éduquée aux contraintes et à la qualité ou non de ce qu'ils consomment. Et quand on voit voilà, beaucoup de dérives dans les labels, dans les produits qui sont soi-disant super bons, eh ben, il y a quand même encore un grand travail d'éducation et de communication à faire.
Merci beaucoup, Renaud.
Parole de paysan avec Émilie Bell, Renaud David, Maxime et Benoît Espinasse sur Dissonance.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Ras-le-bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline, de vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Et si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Y'a trop de feux rouges dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirai l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine, chargée en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Coin de soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur.
Émilie Bell a exercé pendant 10 ans le métier d'animatrice en EHPAD. Aujourd'hui, elle a fait le choix de revenir sur la ferme familiale et continuer l'œuvre de son père, un pionnier du bio en Aveyron.
Je suis née à Combray, à Serres exactement. Et alors en fait, je suis, voilà, on est issus de l'agriculture, je vais dire, c'est de père en fils. Vu que mon arrière, la ferme sur laquelle je vais m'installer, elle appartenait déjà à mon arrière-grand-père. Ouais. Donc du coup même je suis pas certaine, mais je me demande si mon arrière-arrière-grand-père n'était pas aussi voilà, bon, c'est vrai. D'accord. Que comme j'ai pas connu, je sais pas trop, mais bon voilà, c'est vraiment une ferme familiale. Donc du coup là c'est actuellement mon frère et mon papa qui sont installés tous les deux. Et du coup voilà, avec le départ à la retraite à mon papa, c'est moi qui vais m'installer avec mon frère. Du coup on va prendre ça en famille.
Et donc ça a toujours été des brebis?
Oui. Ça a toujours été des brebis. Bon, après, du coup, à l'époque, c'était très petit. Et il y avait une vache, quoi, quelques vaches, quelques bœufs, vu que, voilà, c'était... Mais c'était quand même la dominance brebis. Et par contre, il y a juste eu un changement, c'est que mon père, quand il s'est installé, c'était des brebis viande et on est passé en brebis lait. Au début, on travaillait pour Roquefort. Et ensuite, quand on a décidé, donc en 2003, de basculer vers l'agriculture biologique, hein, voilà, du coup, là, on a commencé à changer. Bon, voilà, c'était compliqué pour Roquefort de venir collecter le lait en bio, vu qu'on était les seuls dans la région. Donc du coup, on a décidé, après quelques années, de changer. Du coup, maintenant, on traite pour le GIE, Pays de la Brebis, qui vient de changer. Maintenant, c'est une coopérative, mais
d'accord. Voilà. Et donc, quand tu as eu 17 ou 18 ans, tu as décidé de quitter ce monde de l'agriculture, non?
Oui. Alors, ben, en fait, au moment ben, voilà, de l'adolescence, il fallait faire le choix du métier. Donc moi, je ne savais pas trop. J'hésitais entre ben, tout ce qui était le médical, social. Et rester sur l'agriculture. Mais bon, du coup, voilà, je savais pas trop. Les deux me plaisaient. Et donc, en fait, voilà, c'est mon papa qui m'a dit « La ferme, elle ne changera pas. J'ai encore quelques années à faire. Ton frère devrait s'installer, vu que mon frère est plus grand. Donc, va voir ailleurs. Et puis, si jamais ça te plaît, tu es toujours à temps de revenir, quoi. » Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie, du coup, dans le social. J'ai fait mes études, du coup, pour le social. Voilà, pour faire animatrice en gérontologie. Et donc, voilà, j'ai travaillé 10 ans en EHPAD.
Il y a un an, tu as décidé de reprendre des études pour pouvoir gérer une exploitation agricole.
Voilà, c'est ça. Donc, bon, mais du coup, l'agriculture, quand même, était toujours dans un peu un coin de ma tête. Hein. Donc, bon, j'adorais mon métier, je me régalais. Mais après, voilà, j'avais d'autres envies. Puis, bon, après, le côté familial, je vais dire les contraintes familiales, vu que j'ai grandi... Avec ça, je savais, entre guillemets, comment je pourrais gérer avec mon fils. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de repartir, vu qu'en fait, ça allait en fait concorder avec le départ en retraite à mon papa. Et du coup, ben, pour mon frère aussi, on en a discuté et voilà, je me suis lancée.
Donc on ne pourra plus dire de père en fils, de
non.
Père en fils-fille alors.
Voilà, c'est ça.
Et là, tu as passé une année au lycée agricole de la Cazotte.
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, du coup, pour m'installer, on peut s'installer comme ça. Mais on peut avoir droit, en étant jeune agriculteur, à des aides. Et pour toucher ces aides, il faut avoir une capacité agricole. Donc, vu que moi, j'étais partie faire mes études dans le social, en fait, je n'avais pas cette capacité agricole. Donc voilà, du coup, c'était à Sainte-Afrique, à la Cazotte, pas loin de la maison. Donc je suis partie un an faire, du coup, mon BPREA, ça s'appelle. Brevet professionnel de responsabilité d'exploitation agricole. Pour être responsable d'exploitation agricole.
Et le public de cette année de formation, ce sont des gens qui sont issus du monde agricole ou pas que?
Alors, du coup, moi, pour cette année, c'était essentiellement des gens qui n'étaient pas forcément du milieu agricole. Donc, il y avait des gens, c'était plutôt... Donc, on était, pour dire, on était deux filles d'agriculteurs, je vais dire. Après, c'était des personnes qui soit c'était leur conjoint, en fait, qui était agriculteur, mais qui, elle, du coup, n'était pas issue de l'agriculture. Après, il y avait des hors-cadres qui... pas de famille, rien de ça. Et après, il y en avait d'autres que c'était le grand-père ou un oncle. Mais bon, quand même, majoritairement, qui étaient vraiment nés dans une ferme, on était deux ou trois quoi, sur les 15 personnes. Quoi.
Et est-ce que les formateurs vous... Enfin, pas vous faisait prendre conscience, parce que tu en as conscience, Émilie, et les autres aussi, certainement, de la difficulté actuellement, des problèmes du monde agricole qui s'accentuent, quoi.
Oui, oui, ça, c'est quelque chose où ils sensibilisent beaucoup. Après, le but aussi, c'est d'avoir les connaissances pour... parce que maintenant, être agriculteur, c'est pas que savoir conduire un tracteur et semer... faucher, donner à manger, quoi. C'est beaucoup aussi de gestion, en fait. Et du coup, on a toute une grosse partie, en fait, de la formation aussi qui est axée sur la comptabilité, la gestion, qui, en fait, est un peu la clé et le cœur du problème et le pourquoi de l'agriculture, c'est compliqué en ce moment, quoi. Mmh. Quoi, peut être compliqué.
Ouais, ça peut être compliqué. Est-ce qu'on vous parle du bio, de différents types de filières qui peuvent être intéressantes?
Oui, alors en fait, le côté, ben non, parce que du coup, la formation que j'ai fait, il peut y avoir plusieurs options. Il y a l'option équine, l'option élevage, quoi, polyculture élevage, donc celle que j'ai fait. Et après, le maraîchage. Et la polyculture élevage, en fait, il n'y a pas d'option. C'est fait exprès. C'est pas que pour du bio, c'est pas que pour du conventionnel. Bon, c'est vrai que, je vais avouer, on était une promotion où on n'était pas du tout intensif. Donc, peut-être que ça a été le but. On n'en a pas vraiment parlé parce qu'on était tous plus ou moins contre.
Ah ouais.
Et pour nous, c'était pas ça l'agriculture. Et je pense que pour les formateurs aussi. Mais par contre, après, on parle autant du bio que du conventionnel, que de l'agriculture de conservation. En fait, on aborde vraiment toutes les différentes façons de voir l'agriculture, quoi. Et après, chacun se fait une idée. Et le but aussi, c'est de créer des débats, voilà, d'en discuter ensemble.
Sur Combray, vous avez été des pionniers en bio.
Mon papa, quand il s'est lancé dans ça, ça a été vraiment le premier. Voilà, ça a été le premier à se lancer dans ça. On le prenait un peu pour le fou, quoi. C'était un peu, il est cabour, parce que, en fait, c'est pas que les gens étaient contre cette agriculture-là, quoi. La majorité n'était pas contre. C'est qu'en fait, tout y disait, mais... quoi, si c'est pas rentable, s'il rentre pas dans ses frais, il peut couler, voilà, bon... Mais du coup, voilà, au jour d'aujourd'hui, on est très nombreux et de plus en plus nombreux. Et en fait, on est quand même... Les voisins tout autour de nous sont soit en bio. S'ils ne sont pas en bio, ils en sont très, très proches, quoi. Il y a vraiment une petite marche qui les sépare, quoi.
Donc pour toi, il y a de l'avenir dans cette filière et la voie que tu vas choisir.
Ah oui, pour moi, je suis persuadée qu'il y a de l'avenir.
Ouais.
Après, c'est toujours pareil, c'est la façon dont on veut vendre ses produits, la façon qu'on veut de son produit fini, quoi. Après, c'est sûr que au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a de l'avenir et je pense que les gens maintenant commencent à prendre conscience que c'est important de manger local, de regarder ce qu'on mange, de faire attention. Donc du coup, je me dis que ça peut que faire repartir l'agriculture et les petits agriculteurs, entre guillemets, quoi.
Et cette exploitation que vous gérez avec cette exploitation familiale que vous gérez avec ton frère et ta belle-sœur, c'est ça ?
Mon frère et mon père. Du coup.
Ton frère et ton père. Après vous, vous la voyez encore continuer, perdurer avec vos enfants, vos petits-enfants ?
Ah ben oui, nous, on va faire des investissements. Il y a certains investissements, c'est sûr, ça sera pour nous. Il y en a d'autres que ça sera plus pour s'il y a de la reprise. Après, moi j'ai un garçon, mon frère en a deux, qui sont tous les trois très fermes et tracteurs pour l'instant. Bon, ils sont petits, ils auront le temps. Après, on les poussera pas là-dedans. Moi, je ferai vraiment comme mon père, c'est-à-dire si tu veux aller voir ailleurs, vas-y. Et si tu veux revenir, il n'y a pas de souci, quoi. Mais je le pousserai pas s'il faut à tout prix que la... Après, c'est sûr qu'on sera content si c'est une génération de plus qui reste, quoi.
Voilà. On est l'été 2020 et tu vas mettre les pieds dans l'exploitation en été 2021. Tu as un an de formalité administrative, tu me disais tout à l'heure.
Et oui, c'est à peu près ça, quoi. C'est une petite année, mais bon, en fait, voilà, avec l'administratif, on sait que c'est long. Donc du coup, pour être tranquille, en fait, il y a des formations à passer, il y a des rendez-vous, pas mal de rendez-vous avec la Chambre d'agriculture, avec la DDT. Donc ça, après, c'est parce que je demande aussi les aides pour m'installer, quoi. Parce que si je ne les demandais pas, c'est beaucoup plus rapide. Mm-hmm. Mais oui, plus ou moins, il y a une petite année, quoi. Il faut compter entre, ils disent, entre 7 et 10 mois. Voilà.
D'accord. Et est-ce que dans l'exploitation, vous rentrez ou vous allez rentrer dans le cercle vicieux là, de emprunt aux banques, remboursement, endettement, etc. Ou alors dans le bio, ça se fait moins ?
Ça dépend vraiment des exploitations, je dirais. Après, donc nous, oui, on est là-dedans parce qu'en fait, notre ferme, du coup, nous, on va la moderniser. Notre but, voilà, c'est aussi de passer du temps avec nos familles, de ne pas se tuer à la tâche, que en fait, je puisse... je suis une fille, donc je suis moins costaud que mon frère. C'est sûr, c'est pas une question de macho ou tout ça, quoi. Et à un moment donné, c'est une réalité. Et donc, le but, c'est que, voilà, si jamais mon frère, demain, peut pas être là pour X raisons, rien que parce qu'il est en vacances, que je puisse, moi, gérer toute seule. Et ça, en fait, ça demande des aménagements... qui demandent de l'argent et ainsi de suite, quoi. Donc nous, voilà, on va faire notre choix, c'est ça. Mais par contre, voilà, on va pas pousser dans la limite où on va essayer de se dire, ben, faut pas que tous les mois on se demande comment on va payer les fournisseurs, comment on va payer. D'accord. À la limite du raisonnable.
D'accord. Et ce que tu as dit est intéressant, tu vas aussi privilégier une certaine qualité de vie pour toi, ton couple, ton enfant.
Oui. Voilà, ben moi, c'est vrai qu'un des choix les plus importants, c'est-à-dire que, ben voilà, c'est ça, c'est-à-dire que ben, je peux me libérer du temps assez facilement. C'est sûr qu'il y a des périodes où on sait très bien que ben, c'est compliqué, on va beaucoup travailler, beaucoup d'heures dans la journée. Après, ça reste juste des périodes. Et par contre, il y a des périodes où j'aurai beaucoup plus de temps libre. Donc après, ben, l'avantage de l'agriculture aussi, c'est que ben, nos pics d'activité, on peut les choisir dans l'année. Donc voilà, ben pour moi, par exemple, je peux choisir que ben, l'été, ça soit une période où ça soit plus calme. Donc ben, du coup, plus de temps avec mon fils pendant les vacances d'été, c'est pas quand même quelque chose de, négligeable. Donc voilà, après, c'était mon choix, c'est notre choix aussi. Voilà, parce que pour moi, il me semblait important aussi qu'on soit en accord, moi et mon frère, du coup, vu que voilà, mon papa après sera plus trop sur la ferme, il sera toujours là pour nous donner un coup de main, mais... Et donc, du coup, voilà, il fallait qu'on soit en accord sur la façon de voir notre vie personnelle. Vu que, ben voilà, tous les deux, on est en couple et que ça nous corresponde, quoi. Alors, voilà, ni que ce soit pour mon frère ou pour moi, nos conjoints ne sont pas du tout issus de la milieu de l'agriculture et ne sont pas forcément intéressés. Et d'un côté, ça nous va bien aussi parce que travailler en famille, on sait que ça peut être compliqué. Mais en plus, après, on s'entend très, très bien. Voilà, beau-frère, belle-sœur, il n'y a pas de souci. Après, travailler ensemble, je pense que c'est pas pareil, quoi.
Quel regard ils ont porté, vos conjoints respectifs, sur le fait que vous ayez choisi cette voie de l'agriculture, alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est pas toujours facile et simple.
Eh bien, bon, du coup, pour mon frère et ma belle-sœur, elle l'a toujours connu, du coup, agriculteur. Moi, pour le coup, ben, voilà. C'était posé la question. Donc, j'en avais discuté parce que je voulais pas non plus que ça soit... qu'il trouve ça trop contraignant, et alors qu'en fait, au contraire, pas du tout. Lui, il a vu le côté, mais oui, vas-y, ça sera beaucoup mieux. Si on veut faire quelque chose un jour, ben voilà, tu peux te libérer. Puis le côté où c'est très diversifié, quoi. Donc du coup, ben, il peut venir aussi passer un petit moment sur la ferme. Tout en étant moi au travail, en fait, je suis quand même aussi, des fois, je peux être en famille, quoi.
Et est-ce qu'il y a aussi cette dimension, Émilie, ce sera ma dernière question, de pouvoir, en faisant ce choix de vie, de continuer ce qu'ont commencé ton arrière-grand-père, ton père?
Ah oui, bah après c'est sûr que même si voilà, ça me paraît un peu logique, on a toujours grandi là-dedans, on est quand même assez fiers de se dire, ben voilà, on est la quatrième ou cinquième génération, la ferme, au final, on a réussi à la faire un peu grandir, évoluer. Aujourd'hui, elle fonctionne toujours. C'est sûr que c'est quand même une fierté. Et on se dit que, ben, mine de rien, c'est notre famille qui était censée, voilà, être guidée comme ça. Et, ouais. Et l'agriculture, voilà, c'était un peu un lien avec notre famille, quoi.
Et puis pour ton père, voir aussi se perdurer son choix de partir dans le bio et repris par les fils, ça doit être fabuleux.
Ah oui, ben c'est sûr que en fait mon père, lui, avait déjà fait le choix de avant de se convertir, il voulait que ce soit mon frère qui fasse le choix. Et en fait, ben, quand il a vu que mon frère lui-même faisait ses études avec l'option bio, donc du coup, ben voilà, là il a pas hésité. Et puis là maintenant, de savoir qu'on est tous les deux, ces deux enfants reprennent la ferme, c'est sûr que il est fier et ça se comprend aussi, quoi. N'importe quel parent serait fier.
Bon, eh bien, Émilie, bonne chance dans cette nouvelle voie, alors.
Merci beaucoup.
Parole de paysan avec Émilie Bell, Renaud David, Maxime et Benoît Espinas sur Dissonance.
Ici, les rues sont vides et les maisons sont vieilles. Il n'y a que les chiens qui se chauffent au soleil. Pas de néon qui brille, ni de boîte à la mode. Et tu rentres chez toi sans composer de code. Ici ça sent la terre et le miel de forêt, et les hommes se saluent en touchant leur béret. La mairie c'est l'école et la poste est en face. Il y a juste une cabine et personne ne la casse. ici on coupe du bois si on veut se chauffer. Et on joue au billard dans la salle de café. T'as encore quelques vieux qui s'éclairent au pétrole, mais t'as aucun gamin qui s'éclate à la colle. Ici c'est tout petit, oh c'est pas l'Amérique. Pas de mur anti-bruit, ni de périphérique. Y'a pas de cage à poules, ni de tour en parpaing. Ici dans les clapiers, on y met des lapins. Ici on vit le jour et on voit les saisons. Et on entend la pluie sur les toits des maisons. Ici on dit bonjour, au revoir et merci. Si on ferme l'école, qui pourra vivre ici? Ici c'est les girolles qu'on ramasse à la pelle. Pas les boîtes de McDo à côté des poubelles. T'as pas de croix gammée sur les murs de béton, ni de tic dans la rue, couché sur des cartons. Ici les rues sont vides et les maisons sont vieilles. Il n'y a que les chiens qui se chauffent au soleil. Pas de néon qui brille, ni de boîte à la mode. Et tu rentres chez toi, sans composer de cordes.
Maxime Espinas est encore au lycée agricole, mais dans ses propos, on devine son empressement de rejoindre son père Benoît sur l'exploitation familiale.
Bon, je suis avec Benoît et Maxime, ici sur le Causse-Comtal, dans le Nord Aveyron. Et vous êtes agriculteurs tous les deux. Enfin non, Benoît, le papa, est agriculteur. Maxime est dans une école agricole à La Roque et se destine à prendre la suite, en tout cas, de son papa. Ouais. Maxime, comment tu vois l'avenir de l'agriculture et de l'agriculteur?
Je pense que ça va être compliqué. Où il y aura des grosses, très grosses exploitations, ou sinon ça va venir l'industrie.
Et tu penses que ça c'est quelque chose de pas bien, que ça devienne industriel?
Moi j'aimerais pas, donc faudrait que les fermes restent assez petites et familiales.
Et ici en Aveyron, donc tu penses que c'est plutôt des petites fermes?
Oui, pour l'instant oui.
Et tu penses que dans l'avenir, les petites fermes peuvent arriver à vivre?
Je pense qu'il faudra qu'elles fassent plus de la vente directe pour s'en sortir.
Et donc toi, ici, ton papa, il fait de l'élevage de bovins, c'est ça?
Oui, bovins lait, il y a 70 vaches à la traite et 35 au braque, les broutards. C'est une exploitation qui fait 300 hectares. On produit un peu de céréales qu'on vend. Le foin, une grande partie du foin est vendue et on est autonome pour nourrir les vaches.
J'aimerais savoir, Maxime, c'est quoi qui t'a donné envie de faire ce métier, qui est un métier passionnant, paysan?
Moi, je sais pas, depuis tout petit j'ai grandi dedans et ça m'a toujours plu, le contact avec les animaux, la nature.
Et tes grands-parents aussi viennent de monde agricole?
Oui, là ça sera la troisième génération quand je m'installerai. Quatrième, pardon. En grande partie, les éleveurs, ils font ce métier parce qu'ils aiment les animaux, alors ils ont pas à leur faire du mal.
Et donc ton avenir, tu le vois aussi avec l'élevage bovin?
Oui.
Comment tu vois l'avenir de cette exploitation?
Je compte la perfectionner, mais à long terme, ça sera compliqué parce qu'il y a la ville qui approche, alors...
Vous êtes pas loin de Rodez?
Oui, voilà. À proximité, alors. Les habitations avancent.
Oui, et les champs se réduisent?
Oui.
Est-ce qu'au lycée agricole, on vous parle donc de l'avenir, du futur de l'agriculture, et donc de ce qu'il y aurait à perfectionner par rapport à maintenant?
Oui, il nous parle beaucoup de la conservation des sols et de faire attention aux produits chimiques qu'on utilise. Travailler plus en rapport avec la nature.
Est-ce que vous parlez avec tes collègues du fait qu'à une époque, être par exemple agriculteur, c'était être célibataire, c'était pas avoir de vie de famille, c'était vivre avec ses parents?
Oui, on voit ça avant, on pensait que c'était comme ça. Oui.
Et ça change?
Oui, oui, oui. Oui, il y a plus de vie sociale. Il y a moins en moins de célibataires.
Donc pour toi, l'avenir dans l'agriculture, c'est quelque chose de bien, quoi. Enfin, tu y
crois? Oui, 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 j'y crois, oui. Faut espérer. Hein.
Mais oui, oui, il n'y a pas de raison. Je vais embêter ton papa maintenant. Benoît, alors donc c'est toi le papa de Maxime. Ça fait quoi de savoir que toute l'énergie que tu as mise sur une exploitation, ça va perdurer?
Mais bon, on est très fiers que derrière, il y a des personnes, des jeunes qui suivent. Parce que malheureusement, autour de Rodez, enfin, notre secteur, très peu de reprises d'exploitation. On n'est qu'une poignée d'agriculteurs par commune. Très peu de producteurs laitiers. Donc une désertification au niveau du nombre d'exploitations. Et ce qui, à terme, n'est pas une bonne chose. Parce que ces grosses exploitations, on dit un voisin très loin. Le voisin est très loin, très compliqué pour faire de l'entraide et très compliqué au niveau vie sociale et vie familiale puisqu'on n'a plus de voisins, on n'a plus de discussions, on ne communique plus. Donc non, l'avenir n'est pas dans le bon sens. Et bon, je parle de mon secteur, mais je sais très bien que sur l'Aveyron aujourd'hui, le nombre d'agriculteurs diminue fortement. Et c'est le problème qui va se rencontrer, c'est que les jeunes aujourd'hui vont se retrouver tout seuls ou à deux sur des grosses exploitations. Et n'auront plus ce système d'entraide qui était avant, voilà. Où les exploitations, il y avait toujours deux ou trois personnes, des tontons, un oncle, un grand-père, le voisin n'était pas là pour à côté ou faire les moissons, tout ça. Ça c'est quelque chose aujourd'hui qui révolue malheureusement.
Et donc Maxime, il ne fait pas le choix de la facilité là. Sur trois enfants, c'est le seul qui va être agriculteur. Et ça ne va pas être simple.
Bon, par chance, Maxime, normalement, son cousin doit aussi, ça l'intéresse. Donc il s'est à deux et nous, de toute façon, mon frère, c'est ce qu'on aussi, on n'impose pas, mais ce qu'on suggère fortement, c'est que l'agriculture aujourd'hui, il ne faut pas le faire tout seul, parce qu'il y a beaucoup de contraintes au niveau des horaires, au niveau de la surcharge administrative. Et puis aussi, il faut faire face aussi à tout ce monde médiatique où aujourd'hui on est montré du doigt, il faut aussi être prêt à répondre aux consommateurs dans le bon sens comme dans le mauvais. Donc aujourd'hui, il faut être très bien armé et tout seul sur une... Parce que l'exploitation aujourd'hui, c'est des entreprises agricoles et qui, bon, il y a du chiffre, il y a du volume et il y a des salariés, donc c'est tout seul, ce n'est pas envisageable.
Et toi, tu as une vision intéressante de l'agriculteur qui est une vision d'équilibre. Hein.
Oui, nous sommes dans un système extensif, avec beaucoup de surface et très peu d'animaux. Proche du bio entre guillemets puisqu'on utilise très peu d'engrais, très peu de pesticides. Ceci grâce à la méthanisation qui nous fait un apport de matière organique de par les déchets extérieurs qui rentrent sur le site, donc un gros apport de matière organique qui nous évite l'achat de engrais chimiques. Donc voilà, on essaie de trouver une agriculture cohérente dans le secteur. Après l'agriculture biologique aujourd'hui nous paraît compliqué dans nos productions en bovins viande et bovins lait. Les produits sont mieux valorisés, mais ce n'est pas non plus la panacée. Donc nous, ce qu'on veut, c'est limiter au maximum tout ce qui est entrant et de façon à trouver notre équilibre entre une agriculture intensive et extensive. Voilà.
Et pour le moment, vous y arrivez?
Pour le moment, l'objectif, grâce à la méthanisation, on y est arrivé. Voilà. On a diminué de... 80% d'engrais chimiques en moins et le pesticide, on est quasiment à moitié. Bon, ça c'est quelque chose qui est difficilement mesurable, mais bon, le but c'est de réduire, voilà. De faire du cas par cas, quoi. Pas du systématique, parce que c'est une région où on ne fera jamais 80 quintaux de blé, on le sait très bien. Et donc voilà, il faut qu'on prévoie un rendement correct et honnête, et puis il faut se tenir là. Et pas surestimer nos potentiels.
C'est en fonction des besoins que tu travailles alors ?
Oui, c'est en fonction de nos besoins, mais c'est surtout en fonction du potentiel de notre ferme. On est sur une région de Grand Causse où on a la moitié de la surface. Après, c'est des terres beaucoup plus profondes, mais on sait qu'il y a de nos limites. Sur le Causse-Comtal, au 30 juin, on sait très bien que les stocks sont faits. Le maïs, c'est impossible à faire dans ces régions-là. On en fait, mais sur d'autres parcelles plus profondes. Donc l'objectif, c'est... La ferme nous donne un potentiel. Mais on ne peut pas aller plus loin que ça, même en apportant beaucoup plus d'engrais chimiques ou pesticides ou autres. La nature nous limite, c'est la nature qui décide. Mais comme je disais tout à l'heure, l'agriculture se verra si on est en famille ou pas tout seul sur une exploitation. Il faut être bien entouré parce que la solitude pèse. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup d'administratifs. Beaucoup de contraintes, parce qu'aujourd'hui, le consommateur nous demande quand même de la qualité. Donc aujourd'hui, on demande beaucoup à l'agriculture. On ne demande pas simplement de produire. Il faut produire bien, comme il faut, et pas cher. Et voilà. Et le suicide aujourd'hui, oui, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture ne peut plus embaucher, parce que les cours ne sont plus porteurs pour pouvoir dégager des revenus, pour pouvoir embaucher. Donc le souci, il est là, c'est qu'aujourd'hui... On ne peut plus embaucher, donc on se noie dans le travail et on se noie dans l'investissement. Et la spirale fait qu'on arrive à un point de non-retour. Et c'est pour ça que l'agriculture, aujourd'hui, seule, nous tous stagiaires qu'on reçoit, c'est ce qu'on vraiment insiste dessus, tout seul, ne part pas tout seul.
Donc ce serait ça le message pour Maxime et pour les jeunes de son âge, c'est de faire dans le collectif pour pouvoir être solidaire.
Ça, et puis de plus, aujourd'hui, on a tous des familles, tous nos épouses agriculteurs quasiment travaillent hors exploitation, donc une vie familiale où il faut se mettre un petit peu aux horaires du secteur. C'est 18h le soir, on essaye de tenir nos horaires, et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que notre métier, on puisse l'adapter à la vie familiale, l'adapter aux consommateurs. Et ça, c'est très très compliqué.
Mais c'est faisable, puisque toi, tu y arrives. Hein. Vu de l'extérieur, ta vie familiale, c'est une réussite. Et...
Oui, après, il y a des systèmes pour y arriver. Comme nous, en automatisant tout ce qui est partie traite, on essaie d'automatiser au maximum, mais... Aujourd'hui, ça serait beaucoup plus porteur. On préférerait embaucher beaucoup plus de personnel. On en a, mais pas suffisamment. Et on voit qu'on n'arrive pas à dégager suffisamment de salaires, de revenus pour sortir des salaires pour les salariés.
Maxime, les analyses de ton papa, tu adhères ?
Je suis d'accord, oui.
Si, si. Si, c'est bien parce qu'il a une vision réaliste, dans le sens où... Il sait la dureté du métier, mais il essaye de s'adapter tout en préservant en premier la famille et puis après l'exploitation. C'est comme ça que tu vois ça aussi, l'avenir ?
Oui, oui, comme ça, oui.
Bon. Eh bien, bonne chance, Max. Merci, Benoît.
Cette émission est rediffusée sur Radio Sainte-Afrique mercredi 28 octobre à 8h et samedi 31 octobre à 16h.
Et bien évidemment... Elle peut être téléchargée à volonté sur le site de Radio Sainte-Afrique ainsi que sur le site dissonance.ovh. Sur la terre,
des damnés solitaires.
Salut.
Et fraternité.
Étrangers aux vérités premières, énoncées par des coups, jamais touchés le fond de la misère. Je pleure et je ris au pied d'une fleur des champs, égaré, insouciant, dans l'âme du printemps, cœur battant, cœur serré par la colère, par l'éphémère.
paix de la poubelle des cieux. Thank you, my lord.
Alors, qu'est-ce qu'il t'a raconté?
Il y a des allumettes au fond de ses yeux, des pianos à queue dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt dans la vinaigrette et des oubliettes au fond de la cour.